France Inter. L'écrivaine, scénariste et réalisatrice Delphine de Vigan a marqué de nombreux lecteurs avec le récit consacré à sa mère « Rien ne s'oppose à la nuit ». L'auteur de « Jours sans fin », « Noé et moi », « Les heures souterraines », « D'après une histoire vraie », prix Renaudot et Goncourt des lycéens, « Les loyautés » ou encore « Les enfants sont rois », a aussi œuvré pour le théâtre avec la pièce « Les figurants » montée par Valérie Donzelli à La Scala. Cette hypersensible, avide de vérité mais consciente que cette dernière a autant de versions qu'il y a d'individus, vient de faire paraître le thriller existentiel « Je suis Romane Monnier » chez Gallimard. Thomas, 47 ans, est le gérant d'une boutique de reprographie. Après un soir de beuverie, il se réveille avec un téléphone qui n'est pas le sien. La propriétaire de ce téléphone a 29 ans, c'est elle qui donne son nom au livre et qui s'est débrouillée pour que son appareil tombe entre les mains de Thomas, qui va bientôt développer une véritable obsession pour son contenu. Qui est cette mystérieuse Romane dont il explore tous les aspects de l'existence? Pourquoi a-t-elle voulu qu'il puisse accéder à ses données numériques? Est-il possible de disparaître à une époque où l'anonymat est devenu une chose archaïque? Et j'ajouterais même, l'existence a-t-elle un sens? Autant de questions que soulève ce récit mené avec brio et qui ferait presque regretter les cartes téléphoniques. Enfin, pas sûr, rien n'est plus sûr, vous le savez. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure. Eva Bester.
Bonsoir Delphine de Vigan.
Bonsoir Eva.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée?
Oh là là, j'ai beaucoup d'enthousiasme plusieurs fois par jour, on va dire.
C'est plutôt bon signe.
C'est plutôt bon signe. Ce qui me vient à l'esprit, c'est un petit livre que j'ai lu ce week-end que j'avais acheté il y a déjà un petit moment, qui traînait sur mon bureau, un petit texte de Laure Murat qui s'appelle « Toutes les époques sont dégueulasses ».
Eh ben, je l'avais reçu pour ce texte.
Ah ben formidable. Ben, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment donné beaucoup à réfléchir. Et c'est d'ailleurs ces petits livres là chez Verdier, je les aime beaucoup parce qu'ils tiennent dans le sac, en tout cas dans mon sac à main.
Oui, les petits livres jaunes d'un format très agréable.
Oui. Ouais.
Vous avez écrit les loyautés. Quelles sont vos loyautés, subies, choisies ou inconscientes, si tant est que vous les connaissez aujourd'hui?
J'en connais certaines, sans doute pas toutes. Il y en a sans doute qui me travaillent de manière en effet inconsciente. J'ai des loyautés auxquelles je tiens. C'est quelque chose qui est important pour moi, la loyauté. C'est une question que je me pose souvent, très souvent, notamment dans mes relations amicales, par exemple. Et d'ailleurs, le roman était un peu né de cette prise de conscience que je me posais souvent cette question à moi-même. Est-ce que je suis loyale? Est-ce que c'est loyal si je dis ça, si je fais ça, etc. Mais aussi avec... La conscience que ça peut être parfois un petit peu une prison, que ça peut être un peu enfermant. Je continue assez souvent à me poser la question.
Êtes-vous loyal ou fiable avec vous-même?
J'essaye, oui. C'est important aussi, je pense, pour pouvoir se regarder dans le miroir le matin. Les quelques fois où peut-être j'y ai dérogé, ça a été très problématique finalement.
Est-ce que vous culpabilisez facilement?
Très. Ouais, très.
C'est terrible.
Oui, c'est terrible. Et c'est vrai que je pense que nous, les femmes, comme dirait Rulio, on culpabilise particulièrement facilement. Mais c'est une question sur laquelle je travaille. J'essaye de culpabiliser moins et de m'auto-raisonner en me disant que non, il n'y a pas forcément matière à culpabiliser tant que ça.
Et alors, une question qui en découle, quel est votre rapport à la honte?
La honte, c'est assez rare en fait. J'ai quelques souvenirs peut-être plus quand j'étais plus jeune d'avoir vraiment un sentiment un sentiment, même presque une sensation plutôt de honte.
Physique, oui.
Oui, mais j'ai pas de souvenirs très très récents. Il y a ça rejoint cette question un peu de la loyauté. Il y a des choses dont je ne suis pas fière. Ça m'est arrivé de dire ou de faire des choses dont je ne suis pas fière, mais d'avoir essayé après si ce n'est de les réparer, en tout cas de les expliquer, de m'en accommoder.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Delphine de Vigan, à l'instant, je vous interrogeais sur des caractéristiques qui nous concernent tous, la honte, la culpabilité, le rapport à soi. Comment qualifieriez-vous votre sensibilité ?
Exacerbée, par moments un peu envahissante, un peu problématique. Enfin, elle l'a été longtemps, C'est oui, une forme d'hypersensibilité, vous l'avez dit en introduction, qui pour moi a été longtemps, enfin que j'ai considéré comme un handicap, en tout cas quand j'étais adolescente, quand j'étais jeune fille, je savais pas très bien quoi faire de cette porosité un peu disproportionnée au monde. Il y a encore plein de moments dans la vie où j'ai le sentiment que le réglage n'est pas tout à fait au bon endroit, mais en revanche c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à non seulement à apprivoiser, mais même à en tirer finalement mon parti, c'est-à-dire que en tout cas il est arrivé un jour où je me suis dit que ça avait largement contribué à faire de moi l'écrivaine que je suis, et que au fond c'était voilà pas toujours confortable, mais que c'était plutôt un cadeau et une chance qu'un handicap.
Alors pour comprendre cette sensibilité, est-ce que vous me permettez de revenir sur ce que vous narrez dans Rien ne s'oppose à la nuit ?
Oui.
Je le ferai en résumé. À 32 ans, votre mère révèle avoir été violée par son père à l'âge de 16 ans. Vous revenez dans le livre sur son internement en psychiatrie, sa bipolarité puis son suicide. Et lorsqu'elle est internée, vous allez vivre du jour au lendemain en Normandie chez votre père que vous voyez auparavant assez peu. Vous avez 13 ans. Que se passe-t-il en vous à ce moment-là ?
Il y a effectivement un sentiment d'exil, sans doute. Enfin, le sentiment à l'adolescence d'être propulsé, pour pas dire arraché d'une vie pour rentrer dans une autre vie. Et c'est à la fois vivre avec ma mère et tout d'un coup vivre avec mon père, quitter mes amis, quitter Paris pour vivre à la campagne, etc. Une forme d'exil, je dirais, mais en plus dans des circonstances qui étaient évidemment assez rude et perturbante, mais quelque part cette sensibilité, elle vient sans doute même d'avant ça. Enfin, ça fait partie des tournants de ma vie et des moments qui ont été importants. J'en ai parlé dans Rien ne s'oppose à la nuit, parce que j'y vois là peut-être un peu peut-être l'origine de l'écriture dans ce moment de bascule. Mais il me semble que déjà bien avant, un certain nombre de situations vécues, et peut-être aussi tout simplement dans le tempérament de l'enfant que j'étais, me rendait comme ça assez vigilante ou assez sensible au monde qui m'entourait.
Est-ce que vous vous intéressez à l'empreinte transgénérationnelle ? Ça vous renvoie évidemment à l'histoire de votre mère, aux failles qu'elle vous a transmises, mais aussi à ce que vous avez vous-même légué à vos enfants. Et là, vous parlez des valeurs, mais aussi des fragilités que vous auriez préféré leur épargner. Quelles sont-elles ?
L'anxiété, par exemple. Moi, je crois pas mal qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui traversent comme ça les familles. Et l'anxiété, l'intranquillité, ça, il me semble que ça en fait partie. J'espère ne pas leur avoir transmis que ça. Et de fait, ils s'en accommodent plutôt assez bien. Enfin, en tout cas, après, chacune en fait quelque chose de différent. Mais oui, bien sûr, qu'il y a quelque chose de l'histoire familiale, malgré tout, qu'on porte en soi et qu'on perpétue parfois malgré soi. Mais il me semble, moi, avoir personnellement déjoué un certain nombre de choses aussi que j'avais pu recevoir. Et je suis sûre que mes enfants, eux-mêmes, ont aussi choisi des chemins qui leur permettaient d'échapper, heureusement, à une forme de reproduction.
Il y a aussi cette idée que quand on a connu de grandes failles, quand on en a, on peut comprendre aussi autrui quand il est en grande souffrance. Votre mère était devenue assistante sociale et vous, je crois, que vous vous êtes inscrite dans une formation universitaire en psychiatrie.
Oui, un diplôme universitaire. Cette année, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça. Ça m'intéressait beaucoup intellectuellement. Il se trouve que ce sont un certain nombre de sujets que j'avais déjà abordés dans mon travail, soit de manière autobiographique, je pense à l'anorexie mentale, ou biographique, et puis dans d'autres de mes romans, à travers la fiction. Par ailleurs, il m'arrive assez régulièrement d'animer des ateliers d'écriture, et parfois auprès de gens qui ont des troubles psychiatriques, donc j'avais aussi envie de me sentir un peu mieux armée par rapport à ça. La psychiatrie, d'une manière générale, est un domaine qui m'intéresse énormément, pour de multiples raisons d'ailleurs. Ça faisait longtemps que je tournais autour de l'idée d'apprendre, en fait, autour de ça. Et puis là, cet été, je me suis dit, allez, je me lance, je vais faire acte de candidature à ce diplôme universitaire de Paris Cité. Et donc j'ai fait une lettre, j'ai essayé de bien argumenter, et puis ils m'ont accepté dans cette formation.
Elle se fera en combien de temps ?
C'est en un an. C'est en un an et à un rythme qui... C'est une formation qui s'adresse aussi essentiellement à des psychologues et des psychiatres qui sont déjà en poste, enfin qui travaillent.
Il y a une chose qui m'a frappée, c'est qu'à l'époque de la maladie de votre mère, vous étiez très inquiète pour elle, évidemment, et vous avez commencé à écrire un journal qui vous permettait de tenir debout. Il vous en reste 30 petits cahiers écrits entre l'âge de 12 et de 29 ans. Et plus jeune, vous reviendrez dessus plus tard d'ailleurs, vous avez écrit « Jour sans fin, F-A-I-M » parce que vous avez été hospitalisé plusieurs mois pour anorexie, vous avez poursuivi l'écriture du journal, et je me suis dit que l'écriture semblait donc avoir été déclenchée par la maladie de votre mère et la vôtre. Mais vous dites aussi dans une interview que vous êtes tombé malade pendant l'écriture de votre dernier roman, « Je suis Romane Monnier », et que là, vous avez été tenté, oui, d'abandonner l'écriture. Alors, quel est le rapport entre la maladie et l'écriture?
Oui, il n'est pas si limpide que ça, de même que vous parliez des failles. Il me semble que des failles, on en a tous, et des incidents, des accidents de parcours, des blessures qui arrivent aux gens qui nous entourent, ça arrive dans toutes les familles. Finalement, tout ça est assez banal, de même que d'ailleurs la maladie mentale est beaucoup plus fréquente que ce qu'on veut bien imaginer. Donc oui, pour ma part, il se trouve que j'ai commencé un journal intime quand j'avais à peu près 12 ans. Je pense en effet qu'il y avait, en tout cas quand je relis ces pages, l'intuition que ma mère n'allait pas bien, que je ressentais chez elle une blessure, une douleur, une difficulté de vivre en fait, hein, qui était d'ailleurs assez manifeste et exprimée. Sans doute ça a été un peu à l'origine de l'écriture, mais aussi quelque part une sorte de malaise adolescent beaucoup plus banal et des petites histoires plus anecdotiques dans lesquelles... que je racontais dans ce journal. Je l'ai continué longtemps. Quand j'ai écrit « Jour sans fin », je me suis replongée dans ce journal parce que j'ai écrit « Jour sans fin » longtemps après avoir été malade, et j'avais envie de raconter l'histoire d'une guérison. Donc le roman raconte vraiment les 3 mois d'hospitalisation d'un personnage qui s'appelle Laure, qui est une sorte de double de moi-même, même si pour ma part j'ai été hospitalisée plus longtemps. Et donc je me suis replongée dans ces pages pour les nourrir, le terme est drôle, mais parce qu'il y avait aussi un certain nombre de choses que j'avais oubliées. Et puis, quand j'ai écrit « Rien ne s'oppose à la nuit », je me suis de nouveau... j'essayais de composer quelque chose à partir de l'histoire de ma mère. Je me suis de nouveau plongée dans ce journal intime. Le rapport entre l'écriture et la maladie, je ne sais pas. Je serais bien incapable d'en tirer d'ailleurs des conclusions, quelles qu'elles soient. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, il y a vraiment... L'écriture passe par le corps, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment... dont j'ai fait très souvent le constat, à quel point l'écriture était physique, à quel point elle exigeait un état de tension, de concentration très particulier. Je pense que les gens qui écrivent savent de quoi je parle.
Vous écrivez à voix haute, vous, en plus?
En plus, oui, j'écris à voix haute, mais il y a vraiment, pour moi aussi, cette idée d'aller plonger dans une espèce de boîte de je sais pas quoi, de Pandore ou de boîte noire. Voilà, tout ça est très physique. Et en effet, il se trouve que en écrivant, quand j'ai commencé « Je suis Romane Monnier », j'ai découvert que j'étais malade, j'ai dû m'interrompre. Là aussi, finalement, c'est quelque chose d'assez banal. Des gens qui découvrent des maladies, aujourd'hui, il y en a tout le temps, tous les jours, etc. C'était plus... la question, c'était comment trouver, finalement, retrouver ensuite, parce que je me suis interrompue une première fois, puis j'ai dû m'interrompre une deuxième fois. Comment retrouver le souffle à proprement parler pour me remettre au travail. Et puis, avec ce constat que la maladie m'avait fait perdre confiance. Je ne sais pas très bien pourquoi. Et l'image qui m'est venue finalement, c'est que souvent après une chute, si vous tombez dans la rue ou même chez vous, il y a ensuite toute une période où vous avez peur de tomber. Et moi, ça m'est arrivé aussi d'ailleurs, où j'ai ce besoin de se tenir à la rampe pour descendre l'escalier du métro, par exemple. Et alors que tout d'un coup, je me suis dit, mais j'ai pris 10 ans, enfin, c'est, ou 20 ans, je ne sais pas. Enfin, et tout ça participait de la même... vulnérabilité, voilà. Tout d'un coup, cette conscience de notre fragilité humaine, ce vertige, la peur de mourir, etc. Tout ça crée une espèce de faille par laquelle s'engouffrent sans doute les doutes, les remises en question. Et encore une fois, je suis pas du tout seule à avoir vécu ça. Et je pense que n'importe qui traverse la maladie est à un moment donné déstabilisé dans son ancrage. Il se trouve que là, effectivement, comme l'écriture me semble toujours très physique, que j'avais le sentiment, oui, d'avoir un peu perdu ma respiration, j'ai dû un peu me battre avec ça pour poursuivre le roman. Et cette espèce de doute immense qui m'a envahi, mais dont finalement j'ai réussi à me défaire, en tout cas, que j'ai réussi à surmonter.
Alors, par pudeur, je ne vous poserai pas de questions impliquant des détails, mais parce que là, je sens que les auditeurs ont quand même envie de savoir, sinon ils vont être inquiets. Allez-vous mieux ?
Oui, très bien.
Voilà, d'accord, c'est ce que je voulais savoir. Je le sentais, c'est pour ça que je me suis permis de vous demander.
Merci.
Est-ce qu'une des choses qui vous a aidé, ça a été l'autodiscipline acquise après 20 ans dans une de salariat dans des entreprises ?
Oui, alors je, c'est vrai que j'ai été salariée pendant 20 ans et j'ai publié mes 4 premiers romans en étant tout en travaillant. Je ne sais pas si la discipline vient de là. Je pense qu'elle était là même avant. Un des aspects de ma personnalité sur lequel j'ai souvent pu m'appuyer, qui d'ailleurs aussi peut parfois se retourner contre soi-même quand il s'agit par exemple du contrôle,
et je pense de rigidité,
du contrôle, je pense à l'anorexie, mais en tout cas voilà une espèce de volonté comme ça un peu très forte et très performante d'une certaine manière, qui m'a aidée et sortie parfois de situations critiques, et à l'inverse j'ai pu retourner contre moi-même à certaines périodes de ma vie. En tout cas là, en l'occurrence, quand il s'agit de se mettre au travail, d'avoir rendez-vous avec un texte tous les jours, de s'y tenir. Pour moi, c'est comme ça que je travaille et c'est comme ça que j'avance. Je ne connais pas d'autres méthodes. J'ai des amis écrivains qui sont beaucoup plus décontractés, beaucoup plus dilettantes, et je les envie. C'est ma manière d'avancer.
Très bien. Quel est votre sujet ?
Je vais retracer l'itinéraire d'une jeune SDF. Sa vie, enfin, son histoire. Comment elle se retrouve dans la rue. No comme en anglais ?
No comme Nora. Toi ?
Lou.
Comme un loup. Je dors pas, je vis pas dans la rue. Je dors même pas 10 fois dehors. En fait, je t'ai dit, je change souvent d'adresse, donc c'est provisoire, je suis comme une clocharde. En plus, si j'ai pas travaillé, je peux pas trouver un centre. Je sais pas ce que je vais faire à tout, je sais plus du tout.
Mais maintenant, je suis sûre de ce qu'il faut faire. J'ai beaucoup réfléchi, j'en suis sûre. On peut l'apprendre à la maison. Attends, laisse-moi finir. Et que tu dis tout le temps que le monde va mal. Et là, vous avez l'occasion de sauver une vie. Et ça compte une vie.
Merci.
On entend l'adaptation de votre roman Delphine de Vigan, No et moi, par Zabou Breitman. Et vous ne vous attendiez pas à un tel succès. Vous saviez que c'était un sujet casse-gueule, je vous cite, mais vous vous en êtes rendu compte après avoir terminé.
Oui, souvent. Souvent, mais de toute façon, il y a toujours forcément une part d'incertitude et de dérapage possible quand on se lance dans l'écriture.
Vous censurez parfois ?
Ça peut m'arriver. Mais là, il y avait effectivement je me rappelle pour Noé et moi, cette ambition malgré tout de raconter quelque chose du monde, de l'époque, et ambition qui s'est avérée finalement, enfin que j'ai de nouveau eu à plusieurs reprises. Je pense aux Heures souterraines ou évidemment à Je suis Romain de Monnier. Mais c'était peut-être la première fois avec ce texte que j'avais envie, à la fois à travers un récit intime, puisque c'est cette rencontre, cette amitié entre ces toutes jeunes filles qu'on vient d'entendre, mais de raconter malgré tout la précarité, les femmes qui vivent dans la rue, les jeunes qui se retrouvent à 18 ans un peu largués après avoir été éventuellement aidés par l'aide sociale, etc. Et c'est la première fois que je me frottais à quelque chose qui me semblait, en tout cas à l'époque, assez ambitieux.
Depuis qu'elle était toute petite, elle l'intriguait, cette manière qu'elle avait de s'isoler, de s'abstraire. Lucille songeait que sa famille avait peut-être trouvé là sa forme définitive. 3 garçons, 4 filles. Une configuration qui lui semblait amplement suffisante dans la surface qui leur était impartie et lui conférait une place honorable parmi les aînés. J'ai stocké des heures de paroles numériques sur mon ordinateur. J'ai reposé les mêmes questions. Et puis, comme des dizaines d'auteurs avant moi, j'ai essayé d'écrire ma mère.
On entend l'adaptation pour le studio de la Comédie Française en 2022 de Rien ne s'oppose à la nuit, écrit par vous, Delphine de Vigan, avec la comédienne Elsa Le Poivre, dans une mise en scène de Fabien Gorgeard, qui avait aussi mis en scène Les Gratitudes. Vous vous êtes replongé dans le livre pour la première fois pour ce travail d'adaptation, et il paraît que c'est vraiment le livre avec lequel vous étiez la moins familière.
Oui, oui, oui. Bah, j'ai un rapport particulier avec ce texte, une sorte d'attraction, de très grande ambivalence, d'attraction répulsion. À la fois, voilà, c'est un livre qui a changé ma vie. C'est un livre sans lequel, sans doute, je n'aurais pas pu continuer à écrire. Voilà, et en même temps, ça n'est pas simple ni d'écrire ni de publier un livre comme celui-ci. Pas simple pour ceux qui m'entourent, pas simple pour moi. Donc voilà, c'est un texte qui reste encore, qui me rend très facilement fébrile. J'avais refusé jusque-là toute forme d'adaptation, notamment cinématographique. J'avais eu plusieurs propositions au moment où le roman a paru. Mais quand Elsa Le Poivre m'a contactée, c'est vrai qu'elle m'a dit tout de suite qu'elle s'intéressait vraiment à la voix de l'écrivain, dans Rien ne s'oppose à la nuit, à toutes ces questions justement que pose l'écriture d'un livre comme celui-ci, que c'était là-dessus qu'elle voulait, enfin c'était son point d'entrée dans le roman. Et donc j'ai accepté de travailler avec elle sur l'adaptation. C'était assez étonnant d'ailleurs, parce qu'il y avait des parties que j'essayais d'éviter, mais elle ne voulait pas. Et en effet, j'ai découvert à quel point j'avais écrit ce texte dans un état de transe, probablement, parce que je l'ai écrit finalement pas très longtemps après la mort de ma mère, parce que les délais étaient... On avait prévu avec Karina aussi, mon éditrice, que la date de parution du roman, et je sentais que c'était la seule façon de l'écrire, c'était comme ça, en fait. Hein, c'était d'accepter cette urgence de l'écriture, c'était d'accepter de replonger comme ça dans ses souvenirs. Voilà. Et de fait, je l'ai assez peu relu, enfin, j'ai pas eu forcément d'occasion de le relire. J'en ai parlé beaucoup, j'ai reçu énormément de lettres, mais de me replonger à proprement parler dans le texte, c'était la première fois.
Alors dans un instant, on va parler de votre nouveau roman Je suis Romane Monnier, mais il y a quelque chose d'assez frappant, c'est que dans Rien ne s'oppose à la nuit, vous écrivez ceci: j'ai stocké des heures de paroles numériques sur mon ordinateur, des heures chargées de souvenirs, de silences, de larmes et de soupirs, de rires et de confidences. Et c'est ce que fait aussi votre héroïne Romane Monnier. Est-ce que vous le faites, vous, Delphine de Vigan?
Vous êtes la première à faire ce lien. Non, je ne le fais pas. Non, je pourrais être tentée de le faire, parce que toute cette question justement de la vérité, de ces moments qu'on oublie, qu'on revisite malgré soi, etc. C'est quelque chose qui me questionne énormément. Et si je serais assez tentée de le faire si c'était possible, et si ça n'était évidemment, non seulement ça, c'est pas possible techniquement, mais éthiquement, ça n'est pas possible. Donc je ne le fais pas. Mais c'est vrai que, voilà, Romane, elle enregistre ses parents, elle leur demande de raconter une partie de l'histoire familiale, une partie qui a été importante pour elle dans son enfance, dont elle sait que les vérités s'affrontent. Et voilà, ça n'est pas sans lien avec ce moment de Rien ne s'oppose à la nuit, où j'ai tenté d'approcher une vérité qui, en réalité, est inaccessible, et de poser des questions dont je n'ai pas forcément les réponses, etc. Donc il y a bien sûr un lien entre ces deux textes.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Delphine de Vigan, vous publiez Je suis Romane Monnier chez Gallimard, et je crois que la genèse, c'est que votre fils, il y a 11 ou 12 ans, a échangé son téléphone avec quelqu'un un soir sans savoir comment c'était arrivé.
Mais tout à fait. Alors qu'on venait de lui acheter un nouveau téléphone parce qu'il avait perdu le précédent dans la neige en jouant avec des copains.
Dit-il ?
Non, ça, tout a été confirmé, parce qu'effectivement, en effet, parfois, il y a eu sur certains événements une première version officielle, et puis ensuite une révélation un peu tardive. Mais là, en l'occurrence, je lui ai reposé la question quand j'ai commencé le roman, en lui disant, mais bon, maintenant tu peux me dire ce qui s'était vraiment passé ce soir-là. Et en fait, non, il n'a aucun souvenir. Le fait est qu'il était parti donc avec un téléphone neuf, et qu'il est rentré avec un téléphone pourri de la même marque, qu'on n'a jamais pu allumer parce qu'on n'en avait pas le code, contrairement à Thomas.
Alors, Thomas se réveille d'une soirée assez éméchée, où il se réveille un matin et ce n'est pas son téléphone, c'est celui de Romane Monnier. Il essaye de la joindre, il y parvient un moment, il ne va pas la rencontrer, elle va lui faire parvenir son téléphone avec en lui disant de garder le sien et en lui donnant les façons d'accéder à son téléphone. Les préoccupations qui figurent dans ce livre sont les vôtres, dites-vous, Delphine de Vigan, et notamment la question des traces que nous laissons derrière nous à l'ère du numérique.
Oui, oui, ça a été vraiment un des points d'entrée dans le texte. C'est-à-dire, je me questionnais moi-même sur, d'abord, cette abondance absolument phénoménale de traces que contiennent nos téléphones, et comment nous y retrouver, comment naviguer là-dedans, en me demandant, est-ce que finalement, le plus important, le plus précieux, n'est pas noyé parmi le plus trivial, le plus anecdotique, donc voilà, et puis cette intuition malgré tout qu'aujourd'hui le téléphone d'une jeune femme de 29 ans contient pratiquement toute sa vie.
Quel est votre rapport à votre propre téléphone? Quelle application trouve-t-on dessus?
Je pense quelque chose d'assez banal, d'assez classique. Je n'ai pas d'application particulière. Parfois, j'ai des amis qui me font découvrir des trucs complètement insensés.
Comme quoi?
Il y a pas longtemps, la grande Sophie m'a fait découvrir une application qui est d'intelligence artificielle qui génère des chansons. Mais en 4 secondes, vous donnez un thème, un rythme, disco, jazz, etc. Et 4 ou 5 secondes après, l'application vous produit une chanson avec des paroles. Alors, on a beaucoup ri parce qu'elles sont quand même un peu stupides, il faut bien le dire. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas eu le sentiment d'avoir entre les mains le vrai tube de l'année, mais c'est quand même assez spectaculaire.
Pourquoi avoir choisi une photographie du tournage de Chacun cherche son chat de Clapiche pour le bandeau du roman?
Ça s'est fait en deux temps. D'abord, j'avais envie d'une photo qui raconte un peu ce côté sur le fil du personnage de Romane Monnier, ce moment de un peu de bascule où elle se sent pas tout à fait à l'aise, pour pas dire pas du tout dans le monde qui est le nôtre, cette tentation de disparaître, etc. Mais c'était assez compliqué à représenter. Il y a toujours cette question quand on met une image de trop incarner le personnage, de lui donner un visage trop précis. Donc avec le service qui s'occupe de ça chez Gallimard, on a cherché, brassé des dizaines de photos. Rien ne nous satisfaisait tout à fait. Et puis, un peu par hasard, de fil en aiguille, vraiment, on est tombé sur cette photo tirée du film de Cédric Clapiche. Et il se trouve que, par ailleurs, c'est quand même un film qui raconte une génération aussi. Et que Cédric Clapiche est quand même un réalisateur qui s'intéresse beaucoup à la jeunesse, etc. Donc la coïncidence était... Mais bon, peut-être avant tout, la beauté de cette image et cette silhouette comme ça sur le toit, un peu à la fois en équilibre et qui semble malgré tout... Elle a quelque chose de très déterminé, je trouve, dans la façon qu'elle a de regarder. Et puis, en même temps, quelque chose d'un peu fragile. Enfin, j'aime bien. Et puis, voilà, on a demandé l'autorisation à Garance Clavel, la comédienne, d'utiliser la photo, et elle nous l'a donnée.
Les deux personnages qu'on découvre dans ce roman, qui sont Romane et Thomas, ont beaucoup de choses en commun, et notamment des familles dysfonctionnelles. Il y a aussi des suicides, comme dans votre propre histoire. Et la question est la suivante. Est-ce que ça existe, une famille non dysfonctionnelle?
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, probablement pas. Probablement dans toutes les familles ont leur zone d'ombre, abritent leurs blessures, leurs fêlures, des révélations, des secrets, etc. Tout ça, c'est finalement assez banal. Donc, pas plus peut-être dans la famille de Thomas et de Romane que dans les autres.
Alors, Thomas a une fille qui s'appelle Léo, pour Léonore, et c'est la relation la plus tendre du roman. Il y a surtout beaucoup d'humour entre deux. Elle est partie, elle a quitté le domicile puisqu'elle est suffisamment grande. Et je voulais savoir si l'humour était important pour vous, parce que eux surnomment leurs voisins Mylène Farmer, Serge Lama. Il y a des références à La Flamme, ça c'est plus la génération de Romane Monnier qui regarde ça. Est-ce que l'humour arrive à mettre à distance les choses douloureuses?
Oui. Moi, j'aime beaucoup cette idée qu'avec l'humour, on peut dire beaucoup de choses, qu'il y a une forme d'élégance dans l'humour, qu'il y a une forme de distance qui est souvent salutaire, etc. D'un point de vue romanesque, ça n'est pas si évident. Enfin, je pense que dans la plupart de mes livres, il y a de l'humour, mais il n'est pas toujours perçu. Ça m'est arrivé même de dire ça et qu'on me regarde d'un air un peu consterné. Par exemple, quand j'essayais d'expliquer que pour moi, dans Rien ne s'oppose à la nuit, il y a des passages où il y a vraiment, j'avais envie de faire de faire entrer de l'humour. Peut-être que le drame prend vite quand même le pas sur l'humour. Mais, et puis, personnellement, j'adore l'humour. J'aime bien regarder des spectacles d'humoristes, par exemple. J'aime bien les comédies, j'aime bien rire, je ris facilement.
Alors, dedans, ça va de la flamme à des recettes de croque-monsieur sur Internet, au top des chansons écoutées. Bon, je suis très contente puisque Romane a l'application Radio France sur son téléphone. Vous êtes renseignée sur les codes des adolescents d'aujourd'hui pour le livre ?
Oui, plus ou moins. Il y a des choses que j'aime moi, à vrai dire. Hein. Je me suis aussi fait plaisir. Et puis oui, j'ai rencontré en fait... bon, déjà, mes enfants ont quand même plus ou moins l'âge du personnage, donc je discute beaucoup avec eux et j'ai quand même une idée des questions qu'ils se posent, de la manière dont ils s'informent, etc. Mais plus spécifiquement pour le livre, j'ai passé un peu de temps avec trois jeunes femmes qui avaient une utilisation plus intensive de leur téléphone que ma fille. Et ça a été très intéressant, oui, de savoir quelles applications elles utilisent. J'en ai découvert à cette occasion, notamment par exemple les applications de suivi de cycle ou de suivi de sommeil dont j'ignorais l'existence.
Alors, moi, à un moment, j'ai pensé au film Conversation secrète de Coppola, parce que je ne sais pas si vous avez vu ce film ou si vous vous en souvenez, mais il y a Gene Hackman qui devient totalement obsédé par un enregistrement qu'il doit analyser. Et dans votre livre, Thomas devient absolument obsédé par ce téléphone et il consacre de plus en plus de temps chaque jour. Parfois, il essaye même de s'en sevrer. Mais je voulais savoir si vous avez déjà eu une addiction de ce type une obsession.
Ah oui, des obsessions, oui, j'en manque pas. Mais pas pour le téléphone. Et pour Thomas, ce qui m'intéressait, c'est que le téléphone arrive dans sa vie à un moment quand même un peu de vacuité, de désœuvrement. Parce que peut-être que un peu plus tard, il ne se serait pas laissé engloutir comme ça. Et c'est un moyen d'échapper à son propre téléphone, mais finalement en s'engouffrant et en se laissant complètement engloutir par un autre téléphone.
La société, pour moi, ou le monde même plus généralement, s'offre comme une simulation. C'est en quelque sorte une hypothèse opérationnelle, mais je pense que c'est tout. L'état des choses est un état de simulation des choses, qu'aujourd'hui il y a cette espèce de péripétie, je ne sais pas si elle est dramatique, si elle est banale, mais enfin en tout cas quelque chose qui ne nous offre plus jamais seulement la réalité, mais en même temps autre chose qu'un miroir. D'ailleurs, une simulation n'est pas exactement un miroir, hein, c'est autre chose. Et que le grand jeu aujourd'hui, il est en effet un jeu de simulacre. Peut-être il l'a toujours été. Hein. Héraclite parlait déjà de simulacre, et Platon et d'autres. Le simulacre a toujours été là. Simplement, celui auquel nous avons affaire, à mon avis, est proprement celui-là, moderne. Enfin, il est proprement contemporain.
C'est Jean Baudrillard qu'on entend sur France Culture en 1988. Delphine de Vigan, vous avez publié D'après une histoire vraie. Je souligne vraie, puisque c'est la vérité qui semble vous obséder. À un moment, dans Je suis Romane Monnier, Romane dit à son amie d'enfance qu'elle n'arrive plus à trouver d'authenticité dans ses rapports avec les autres, que tout sonne faux, que ça la mine. Ça semble un peu un sentiment très partagé à notre époque, une époque de fake news, mais en fait on se rend compte que le mensonge est partout, puisque vous montrez les échanges qu'elle a avec son amie et on voit aussi qu'il y a deux versions différentes d'une certaine dispute, et puis vous montrez ce Thomas qui lui-même n'a pas tout dit à sa fille. Est-ce qu'on peut vraiment dire toujours la vérité ?
C'est pas toujours simple. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le récit qu'on se fait à soi-même et qu'on fait aux autres pour avancer aussi. Je pense que notre mémoire, elle travaille aussi pour nous rendre les choses acceptables. Et là, en l'occurrence, Romane, elle est très très habitée par cette question de la vérité parce que, comme on le disait à l'instant, elle a grandi entre deux versions familiale contradictoire, et ça c'est pour elle une blessure de ne pas savoir exactement ce qui s'est passé. Or, une vérité, il y en a une en l'occurrence, mais elle ne lui est pas accessible. Et pour Thomas, il y a cette espèce de système de défense qu'il a mis en place assez tôt, récupérant un peu à son corps défendant un enfant qui n'a absolument pas désiré, et il construit une espèce de fresque épique et voilà, avec elle, avec sa petite fille, qu'ils vont nourrir tous les deux, sans doute pour tenir ensemble, pour tenir debout, etc. Et la découverte du téléphone, finalement, avec toutes ces questions aussi que Roman se pose autour de la vérité, le questionne lui-même, fait écho à sa propre histoire et l'oblige finalement à revisiter un certain nombre de choses, comme parfois la vie nous y oblige, parce que c'est le bon moment, parce que c'est le moment aussi peut-être de se raconter l'histoire d'une manière plus juste, en tout cas qu'il n'aurait peut-être pas supporté plus tôt, voilà. Et c'est, je crois beaucoup à ça aussi, qu'il y a des, c'est pas forcément raconter l'histoire comme on peut la supporter, c'est pas forcément la travestir, c'est pas forcément mentir, c'est aussi se donner les moyens parfois de la supporter. Et il me semble que aussi parfois l'époque par exemple nous invite à repenser à des choses que nous avons pu vivre et à les éclairer différemment. Et ça, je trouve ça très, très intéressant.
On avait les cheveux longs, des dents de lait et pourtant on savait que ça n'allait pas. Les papillons, on posait plein de questions. On savait que ça n'allait pas durer. On collectionnait les billes, on sentait bon l'avenir. On savait que ça n'allait pas durer. On était toujours jaloux et on attrapait les poux. On savait que ça n'allait pas durer. Pensées sauvages, on savait que ça n'allait pas durer. On courait jusqu'à plus soif, on se faisait des grimaces. On savait que ça n'allait pas durer. Qui aurait pu nous le dire? Qui aurait su nous l'écrire? Prendre la fuite, on savait que ça n'allait pas durer. On avait la varicelle, on était bien trop cruel. On savait que ça n'allait pas durer.
Votre choix musical qu'on entend Delphine de Vigan, la grande Sophie, à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, on savait, entre parenthèses, devenir grand. Vous avez collaboré avec elle, notamment à la Maison de la Poésie et à la Philharmonie.
Oui, on a même créé une lecture musicale qu'on a tournée pendant longtemps. On a fait 50 dates. Oui, l'une et l'autre, oui. Et c'est une très belle chanson sur l'enfance et j'aime beaucoup la grande Sophie.
Et alors, pourquoi ce sont souvent des enfants qui se posent de multiples questions dans vos ouvrages ? Vous pensez qu'on s'en pose moins quand on vieillit ?
Non, des enfants, des adolescents, non, les adultes aussi s'en posent, oui. Mais c'est vrai que j'ai peut-être une curiosité, un intérêt particulier pour l'enfance, pour l'adolescence, oui.
Alors, je dois préciser quelque chose auquel personne ne s'attend. Attention, suspense. Du 21 au 25 janvier, enfin, je vous l'ai dit, Delphine de Vigan, je ne vous ai pas prise par surprise, le CNL organise des événements gratuits dans toute la France et à l'étranger à l'occasion des Nuits de la Lecture. Et afin de nous associer à l'événement, on propose à nos invités, toute cette semaine, une lecture. Vous avez choisi un extrait de James Salter, Salter. Comment vous prononcez ?
Oui, l'un ou l'autre.
D'accord, l'un ou l'autre. Un bonheur parfait, et on vous écoute.
Et il leur lit un livre comme chaque soir. Il a l'impression de les arroser, de biner la terre à leurs pieds. Il y a des histoires dont il n'a jamais entendu parler, d'autres qu'il connaît depuis son enfance, ces pierres de guet visibles de tous. Quel est le véritable sens de ces histoires, se demande-t-il, de ces êtres qui n'existent plus, même dans l'imagination ? Princes, bûcherons, honnêtes pêcheurs qui vivent dans de pauvres cabanes. Il veut que ses enfants aient une vie ancienne et une vie nouvelle, une vie inséparable de toutes les vies passées qui en découlent, les dépassent, et une autre, originale, pure, libre, située au-delà des préjugés qui nous protègent, de l'habitude qui nous façonne. Il veut qu'elles connaissent à la fois l'avilissement et la sainteté, mais sans humiliation, sans ignorance. Il les prépare pour ce voyage, comme s'il ne restait qu'une seule heure pour rassembler tous les vivres nécessaires, donner tous les conseils possibles. Il désire leur transmettre une direction unique dont elles se souviendront toujours, qui englobe tout, montre le chemin, mais il ne parvient pas à la trouver ni à la reconnaître. Il sait que c'est le bien le plus précieux qu'elles pourront jamais posséder, mais il ne le détient pas. Il suffit de connaître un seul livre pour avoir une bonne éducation, dit-il à Nedra. On acquiert ainsi la pureté, un sens des proportions et le réconfort d'avoir toujours un exemple sous la main.
Extrait d'Un bonheur parfait de James Salter, lu par vous, Delphine de Vigan. Merci beaucoup et je rappelle pour cette initiative du Centre National du Livre, le CNL, que vous pouvez retrouver toutes les infos sur nuitdelalecture.fr et puis l'application Radio France vous propose plein de textes, notamment « Ça peut pas faire de mal » de Guillaume Gallienne ou « Les admirations littéraires » avec plein de différents maîtres de cérémonie.
En fait, moi je suis un peu embêté avec l'idée que la vie ce serait quelque chose de déterminé, de simple à encadrer. Borges, il a écrit quelque chose qui m'a aussi beaucoup interpellé depuis toujours, quoi. Il dit quelque chose du genre, est-ce que la vie d'un homme qui a passé 50 ans dans une bibliothèque à lire tous les livres est moins remplie, moins pleine, moins riche que la vie de celui qui a fait 30 fois le tour du monde? Et c'est une vraie question, quoi. Est-ce que la dose de vie qu'on porte en soi, elle est visible, elle apparaît à travers des actes concrets, visibles pour les autres? Est-ce qu'il n'y a pas une vie, une mobilité, une immense mobilité à l'intérieur, des déplacements à l'intérieur gigantesques qui peuvent se faire sans que ça se voit? Et quand même, le gros problème de nos relations, souvent, c'est qu'on fonctionne à travers ce qui se voit, et se voit sans trop d'efforts en plus, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est dans une société de consommation où on met en scène ce que les autres attendent de voir de nous. Et voilà pourquoi je pense qu'il faut laisser chacun décider quel type d'existence il a envie de mener et peut-être pas arrêter de juger qu'est-ce qui serait bien ou pas bien dans la vie.
C'est l'auteur et metteur en scène Joël Pommera qu'on entend dans l'excellente émission Remède à la mélancolie en 2017. Et vous vouliez parler de lui aux auditeurs, Delphine de Vigan, puisque sa nouvelle création, Les petites filles modernes, titre provisoire, va bientôt voir le jour.
Elle a vu le jour, elle a commencé, elle va commencer à tourner. Oui, c'est vraiment un spectacle que je recommande énormément. Aller voir en famille, j'aime beaucoup Joël Pommera. On a vu beaucoup de ses spectacles avec mes enfants. Mes enfants ont découvert le théâtre et le spectacle vivant grâce à Joël Pommera. Donc vraiment un spectacle magnifique, onirique, incroyable à découvrir. Parce que vous m'avez dit qu'il fallait faire très vite.
Ben oui, parce qu'il nous restait quelques secondes et on est en direct et je dois rendre l'antenne. Merci beaucoup Delphine de
Vigan. Merci à vous.
Je rappelle que votre nouveau roman Je suis Romane Monnier est paru chez Gallimard et que vous serez pour l'occasion le vendredi 23 janvier à 19h à la Maison de la Poésie pour une soirée autour du livre. Le dimanche 25 janvier à 11h30, il y aura une signature à la librairie Le Divan à Paris. Le 29 janvier à 19h30 à la librairie à Livre Ouvert à Bruxelles. Et puis ensuite vous serez à Charleroi, Nancy, Mulhouse, Strasbourg, Vincennes, Le Havre, Rouen, Bordeaux, Toulouse. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de Gallimard. Cette émission a été réalisée réalisé par Lola Costantini, préparé par Céline Villegas, Louise Morfouas, Franck Olivard et Anaïs Boucher. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Jérôme Ragano. À demain.